Marie-Claude Rivard, bonjour.
Bonjour, Marianne.
On vous joint du côté de Trois-Rivières, c'est bien ça?
Oui, exactement, l'Université du Québec à Trois-Rivières, en Mauricie.
Est-ce qu'il fait aussi beau qu'à Montréal?
Le soleil bat son plein ici, comme chez vous, je présume.
Bon, tant mieux. Marie-Claude, pour moi, parler d'éducation à la santé chez les jeunes, ça sonne beaucoup aussi comme de la prévention. Et c'est une notion assez importante. Est-ce que la prévention, c'est la première motivation derrière l'objectif d'éduquer nos jeunes à la santé?
Oui, effectivement. Là, je pense que c'est juste de penser puis de prétendre que l'éducation à la santé s'inscrit dans une perspective de promotion en santé, mais peut-être en amont, soulever quelques référents théoriques, si on veut, dans la littérature, qui définit en quelque sorte, parce que l'éducation à la santé, je pense que c'est peut-être important qu'on s'entende sur, sur la visée de l'éducation à la santé comme telle. Donc, si je prends une posture d'éducateur, hein. Je suis moi-même éducatrice physique de formation en éducation physique et à la santé. Donc, si je prends une posture d'éducateur spécifique au domaine de l'éducation, je trouve intéressant peut-être de combiner trois définitions autour de l'éducation à la santé. Une première qui est plus globale, de Legendre 2005, qui reconnaît que l'éducation à la santé vise en quelque sorte à faire adopter des attitudes et des comportements qui sont favorables au maintien et au développement de la santé chez les individus et en outre aussi chez les jeunes. Une deuxième définition plus spécifique pour les jeunes, empruntée cette fois à Allen J. Victor en 2006, qui eux affirment que l'objectif de l'éducation à la santé est de permettre aux jeunes de développer des opinions raisonnées, hein, afin qu'ils puissent par la suite faire des bons choix en matière de santé. Puis enfin, une troisième définition de Castillo de 84, cette fois, résumée à travers, je pourrais dire, les savoirs, savoir-faire et savoir-être, je pense qu'il résonne en nous un certain nombre de concepts qui sont alignés vers une prise en charge qui est responsable de la santé par les jeunes.
Marc-Claude, dans mon introduction, je donnais des exemples qui, pour moi, peuvent être de l'éducation à la santé. Est-ce que j'étais pile-poil? Est-ce que c'est ça, l'éducation à la santé, se brosser les dents, se laver les mains avant le repas?
Bien, en fait, l'éducation à la santé est un concept quand même, je dirais, assez large, hein, qui englobe la santé en général et qui, je dirais aussi, défile autour des habitudes de vie. Généralement, les habitudes de vie sont déclinées en trois grandes catégories. On a l'habitude de vie activité physique, hein, les habitudes d'activité physique, celle de bouger, les habitudes alimentaires également. Puis, on a une troisième grande catégorie qui englobe les autres habitudes de vie, entre autres l'hygiène personnelle, évidemment, entre là-dedans, le sommeil, la gestion du stress. Donc, on voit là que c'est quand même une grosse, grosse boîte dans laquelle on inculque un certain nombre de comportements de santé, mais je pense que vos exemples étaient tout à fait très justes en termes de parents d'inculquer, puis en termes de modèles aussi, de montrer aux jeunes enfants des habitudes de vie qui soient saines. Mais il en demeure pas moins que la sédentarité, hein, le manque d'activité physique, puis la malnutrition ou la suralimentation, communément appelée la malbouffe, sont certainement les deux habitudes de vie les plus problématiques à ce stade-ci, là, autant chez les jeunes que la population en général.
Lorsque l'on dit que plus on agit tôt parce que l'enfant et l'adolescent aura tendance à conserver ses habitudes de vie, même lors de l'âge adulte, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été prouvé, ça?
Oui, ça a été effectivement prouvé que, dans le fond, ce qui est acquis en bas âge chez les enfants, en fait, ce qui est montré, c'est qu'il y a plus de chances de maintenir ses habitudes de vie-là à l'âge adulte. Évidemment, il n'y a pas eu de relation de cause à effet comme telle, mais il en demeure pas moins que la littérature montre que plus les habitudes de vie sont inculquées en bas âge, les saines habitudes de vie dont il est question aujourd'hui, plus ce jeune-là à l'âge adulte, en passant par l'adolescence, a des chances de maintenir ses comportements de santé-là dans le temps, si on veut.
Donc, on ne commence jamais assez tôt. On peut commencer dès le plus jeune âge.
Absolument. Si je porte le chapeau des éducateurs, là, au sein d'une école, par exemple, je répondrais à la question en m'appuyant sur des travaux de l'Organisation mondiale de la santé qu'on connaît bien, hein. Donc, l'adoption de la Charte d'Ottawa en 86 là, stipulait que l'acquisition des compétences là, qui permettent de faire des choix qui favorisent la santé là, doit se faire dès l'entrée à l'école. Donc, l'école est considéré, après tout, hein, comme un environnement qui est très, très influent, autant pour la pratique d'activités physiques, par exemple, on va penser à l'offre d'activités physiques, l'accessibilité aux activités physiques en milieu scolaire, puis aussi pour les comportements alimentaires, l'offre alimentaire, par exemple, dans les cafétérias, ou le souci d'avoir des collations santé, des lunchs santé. Fait qu'on voit bien que le milieu scolaire est un milieu pilier quand même dans le maintien, la consolidation, l'amélioration des habitudes de vie chez les jeunes. Puis j'irais même plus tôt encore, parce que l'entrée à l'école, hein, ça passe par le préscolaire, ça passe aussi par les centres de la petite enfance. Puis ces centres deviennent des lieux clés là, au niveau de l'éducation de l'enfant d'âge scolaire, préscolaire même. Et même par rapport à l'éducation aux saines habitudes de vie, là, il y a des travaux de Kerkez et son équipe en 2013 là, qui, au fond, là, révèlent là, que, par exemple, des programmes comme Accueillir la petite enfance, Gazelle et Potiron, c'est des programmes qui comportent un objectif général qui vise, entre autres, le développement global des enfants puis entre 0 et 5 ans, là. Et par la saine alimentation, le jeu actif, le développement moteur. Ouais. Fait qu'on voit bien qu'à travers ces programmes-là institutionnels, déjà, dès la petite enfance, là, il y a des efforts qui peuvent être mis de l'avant là, pour favoriser un développement optimal chez les jeunes. Puis si je porte le chapeau de parent, je pense que vous avez fait une belle entrée en matière à ce sujet-là tout à l'heure. Bien, effectivement, moi, j'ai une collègue des Landes à Trois-Rivières qui est bien connue là, pour ses travaux école, famille, communauté, là, une collègue à l'université, qui a participé dès 2001 à un collectif là, qui s'est penché sur les déterminants de la santé, du bien-être puis la réussite des élèves. Puis elle et son équipe ont posé les premiers jalons, si on veut, en la matière, en matière de santé. Et la valeur de la santé comme étant primordiale au sein de la famille, au sein de l'école, et d'où l'importance d'agir de façon cohérente entre ces deux milieux-là, si on veut. Mm-hmm. Et donc, on le sait, hein, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, les valeurs au sein de la famille, on le sait, se transmettent dès les premières années de vie de l'enfant. Donc, la santé, on dit que ça passe très, très tôt par le modèle ou l'exemple de parents, par les premiers apprentissages qui sont dispensés aussi par les parents. Et donc, des stimuli parentaux d'ordre moteur, par exemple, dédiés aux tout petits, ou encore ce qui est dans l'assiette du jeune enfant, ben, on voit bien hein, que très, très tôt, là, ça commence à se manifester à la maison.
Oui. Donc, c'est intéressant ça de voir les modèles, de voir ce qui fonctionne auprès des jeunes. Pour l'enfant, c'est une chose. Souvent, c'est le parent qui aura une incidence. Une fois l'adolescence, est-ce que les modèles changent? Qu'est-ce qui fonctionne bien auprès des adolescents?
Bien, en fait, les modèles, au fond, changent d'une certaine façon en termes d'influence, mais il y a toujours quatre grands modèles, si on veut, ou quatre grands types d'influence des adultes qu'on peut dire auprès des jeunes ou des adolescents. Je me réfère entre autres, parce qu'au fond, je pourrais aborder la question sur bien des angles, puis vous auriez un autre interlocuteur qui pourrait aussi aborder la question sous un autre angle, mais je dirais que par le biais de mes travaux antérieurs, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aborder, dans le fond, l'influence, le rôle des adultes auprès des jeunes à l'aide d'un modèle que j'ai trouvé fort intéressant de Howard Dempsey et ses collègues en 2010, qui est bien connu d'ailleurs. Et ce modèle-là, je ne veux pas entrer trop en détail dans le modèle théorique, mais je pense que je vais le présenter de façon relativement simple là, pour qu'on puisse bien saisir qu'au fond, là, comme adulte, auprès des jeunes, il y a quatre grands types d'influence qu'on peut, tu sais, qu'on peut, dans le fond...
mettre de l'avant.
Voilà. Hein. Et donc, ces quatre types de rôles-là, si vous voulez, c'est le modeling, donc le modèle. Puis ça, je pense qu'il faut bien saisir que le modèle est très fort. Hein. Le modeling, là, le modèle, nos propres actions, nos propres paroles, nos propres gestes vont beaucoup, beaucoup influencer les jeunes. Le renforcement, l'enseignement et l'encouragement. Donc, ce sont quatre grands rôles chez les adultes. Puis évidemment, chez les tout-petits, le rôle de modeling va être peut-être un petit peu plus fort parce qu'il va l'enfant ou le jeune va beaucoup apprendre puis se reproduire à travers l'imitation, donc ce qu'il va voir en termes de modèle. Puis en avançant en âge, peut-être qu'à ce moment-là, le renforcement et l'encouragement vont prendre un petit peu plus de place, souvent par le biais des pairs, hein, c'est-à-dire que des pairs au sens des collègues, des amis, des PAIRS, là, des autres adolescents. On sait que l'influence des autres ados est très, très importante, l'influence des ados auprès d'eux, dans le fond. Et donc, je dirais que ces quatre types de grands rôles-là sont toujours présents autour des enfants, autour des adolescents, puis selon leur groupe d'âge, selon aussi le type d'adultes qui les côtoient, bien, ces rôles-là peuvent fluctuer, si on veut, dans le temps, mais je peux vous dire par expérience, puis par le biais de mes travaux, puis pour avoir travaillé beaucoup dans les milieux scolaires, le modeling, là, est très, très fort, puis je pense que on peut
l'observer avec des gens comme Pierre Lavoie, par exemple, ou Mylène Paquette, entre autres choses, des gens qui se sont investis, qui ont fait de grandes actions, Pierre Lavoie, notamment, qui est un un modèle pour les enfants. Tout le monde le connaît. C'est une vedette, une star. Alors ça pourrait être un bon exemple de modeling, j'imagine.
C'est un beau, beau grand modèle. Puis effectivement, le défi Pierre Lavoie, d'ailleurs, il n'y a pas moins d'une semaine, je crois samedi, le 14 mai dernier, là, il y avait plus de 5000 jeunes qui ont parcouru la distance Montréal-Québec. Là. Fait qu'on voit bien là, que quand il y a une structure, quand il y a une organisation, parce qu'on sait bien, là, le défi Pierre Lavoie, c'est une grande équipe, mais on voit bien là, que quand il y a une structure, puis quand il y a un message cohérent qui découle autour d'une organisation ou d'un grand modèle comme celui de Pierre Lavoie, je pense que ça porte ses fruits parce qu'effectivement, ça a mobilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Et puis, il y en a d'autres exemples aussi. Vous parliez de Mme Paquette aussi, qui est un modèle, qui est une inspiration en termes d'effort puis de dépassement de soi. Puis, je pense que les jeunes peuvent se référer à des grands modèles de autant sur la plateforme sportive, des fois, ça peut être sur une autre plateforme, mais qui, au fond, nous permet de penser que nos rêves les plus fous peuvent être réalisables.
Tout à fait.
C'est un peu ça, je pense, qui est en arrière de ces grands modèles-là.
Marie-Claude, le temps file. J'aimerais savoir, ça sera dans mes dernières questions, mais j'aimerais savoir des pratiques qui sont efficaces. Je pense, bien sûr, à la technologie, qui est omniprésente de nos jours, et les enfants, les adolescents sont attirés envers ces plateformes. Est-ce que ce sont des approches qui fonctionnent et est-ce qu'il y en a d'autres?
Bien, en fait, est-ce que ce sont des plateformes qui fonctionnent, je les ai pas mesurées, hein, je vais être bien honnête avec vous, j'ai pas évalué dans le fond les retombées, les impacts, mais si on veut mesurer leur utilisation, par exemple, on peut dire que oui, ce sont souvent des plateformes largement utilisées, et d'aborder la question, je pense, des technologies, je pense que ça va de soi aujourd'hui, je crois qu'il faut pas négliger le médium des technologies. À titre d'exemple, il y a une plateforme web, le Wix Mag, dont l'éditeur est Québec en forme, qui est un bel exemple d'utilisation qui est judicieuse, là, hein, qui s'adresse autant aux jeunes, aux parents qu'aux éducateurs, puis sur cette plateforme-là, au fond, on retrouve des applications qui fournissent, par exemple, des musiques d'entraînement ou encore des incitatifs à courir en gang, en groupe, si on veut, hein, pour que ce soit plus motivant. Donc, ce sont quelques exemples, je pense, d'applications, d'utilisation de la technologie qui peuvent, au fond, je dirais, mobiliser les jeunes vers l'adoption de comportements de santé. Mais somme toute, je vous dirais, moi, ce que je pense, c'est une utilisation qui soit diversifiée, qui importe, et surtout, puis le défi est peut-être là, et surtout que les messages soient cohérents entre eux. Mais à travers toutes ces plateformes auxquelles on a accès aujourd'hui.
Je veux également que vous nous parliez de cette approche qui s'appelle École en santé. Je pense que vous avez collaboré à mettre de l'avant cette approche.
Oui, voilà. Donc, j'ai accompagné quelques milieux scolaires au tournant des années 2005, si on veut. Dans le fond, l'approche École en santé découle d'une entente de complémentarité entre deux ministères. Hein. Ça ne s'était pas vu avant. Ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, qui se sont réunis autour d'objectifs commun, dans le fond, qui favorise la réussite éducative, la santé et le bien-être des jeunes. Et donc, issue de cette entente-là, la démarche structurante de l'approche École en santé, qui offre un cadre, en quelque sorte, apprend notamment ancrage cette approche-là dans le système éducatif québécois par le biais du programme de formation de l'École québécoise. Et donc, depuis 2005, cette approche-là, elle a été déployée à travers le Québec, faut le dire, à géométrie variable. Et, bref, cette approche a été jugée novatrice et prometteuse parce qu'elle s'appuie sur une double conception, si vous voulez. Une première conception qui est globale, hein, qui touche les facteurs clés du développement du jeune, et elle est aussi concertée, une conception concertée, et qui fait donc appel à des acteurs autour de la formation des jeunes, des acteurs issus de l'école, de la famille et de la communauté. Donc, c'est en abrégé que je vous présente l'approche École en santé, mais je dirais au fond que toute initiative santé qui part de l'école, que ce soit l'approche comme telle École en santé ou toute autre initiative, si vous me permettez, ben je pense que ça peut être envisagé comme un projet de société, hein, qui rassemble les divers acteurs autour de la formation et du développement des jeunes. Dans le but, au fond, ce qu'on souhaite, hein, c'est que plus de jeunes réussissent à l'école et qu'ils soient en meilleure santé. Je pense que c'est
Pour en savoir davantage, Marc-Claude, on peut aller sur écoleensanté.inspq.qc.ca. On le glissera sur notre site. En terminant, il reste quelques secondes, mais un ou deux trucs bien concrets pour les parents qui nous écoutent pour des stratégies là, qui fonctionnent, qui sont concrètes pour favoriser les saines habitudes de vie à la maison.
Ben écoutez, en fait, c'est peut-être de tenter d'agencer l'horaire du parent avec celui de l'enfant. On le sait bien là, que au fond, l'encadrement, la supervision des enfants est un défi quotidien pour les parents. Et donc, s'il y avait un petit horaire qui permettait, par exemple, de faire une activité physique en dyade par enfant, par exemple, ou même favoriser ce qu'on appelle, puis j'ai documenté des travaux là-dessus, le devoir actif. Hein? On fait une petite marche à l'extérieur, on fait une petite randonnée en famille, avec les parents, puis on fait notre vocabulaire, on fait nos mathématiques.
Ah, quelle bonne idée, ça!
Et on combine un peu l'utilité, le bien-être à bouger, puis en même temps, bon, on sait bien là, que dans la vie de tous les jours, tout va très, très vite. Oui. Donc, c'est des petits efforts, je pense.
Au quotidien.
De mettre des bons aliments dans l'assiette aussi, je pense que ça reste aussi un défi de tous les jours pour les parents.
Marc-Claude Rivard, je le rappelle, vous êtes professeur titulaire, chercheur au département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
C'était un plaisir. Merci de l'invitation.
Bye bye.
Au revoir.